Les questions de Sophie. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue aux questions de Sophie. Aujourd'hui, le 29 septembre, on se pose la question, mais pourquoi et comment retourner aux études à l'âge adulte? Alors, c'est pas toujours évident. Je l'ai fait, moi, pour ma maîtrise et vraiment, j'avais des horaires de fou, mais ça vaut la peine. Beaucoup d'obstacles, beaucoup de déceptions, beaucoup de joie aussi d'être allé jusqu'au bout. Et puis, on n'est pas les mêmes, hein. Quand on va aux études, on dirait qu'on est plus attentif. De toute façon, on va vraiment s'occuper de cette question à fond pendant 60 minutes. On aura nos spécialistes qui viendront au fur et à mesure à ce micro. Nathalie Martin, conseillère en orientation chez Enjeux Carrière, nous parlera du pourquoi on retourne aux études. Immigration et retour aux études serait très important aussi parce qu'on sait très bien, puis ça c'est vrai, mesdames, messieurs, souvent vous prenez un taxi, vous discutez avec la personne. Elle est médecin dans son pays, puis elle est chauffeur de taxi ici. Là, c'est hallucinant, il faut que ça change. On en parlera avec Annick Lenoir, professeure adjointe au département de services sociaux de l'Université de Sherbrooke et membre du Centre d'études éthiques et des universités montréalaises. Et puis, sujet 40-50 ans, pas évident, retourner aux études à cet âge-là. Hein? Lucie Dubé, conseillère en orientation chez Midi 40. C'est un service de transition et de gestion de carrière spécialisé en recherche d'emploi pour les 40 ans et plus. Elle sera dans nos studios. Le retour aux études avec une limitation fonctionnelle, aussi pas facile. Beaucoup de déplacements à faire hein, quand il faut aller écouter nos professeurs. Comment ça se passe? On aura Franck Bouchard du comité d'adaptation de la main-d'œuvre, CAMO, pour personnes handicapées. Il sera dans nos studios. Et notre coup de chapeau, eh bien, ce sera pour Paula Duguay, présidente de Maman va à l'école. C'est un organisme qui aide les mères monoparentales qui désirent retourner aux études, tout ça aux questions de Sophie. Alors, la grande question, on débute notre émission avec Nathalie Martin, conseillère en orientation chez Enjeux Carrière. Bonjour, Madame Martin.
Bonjour, Madame Stanquet.
Je dis la grande question. Pourquoi on retourne aux études?
Pourquoi on retourne aux études? On constate chez les adultes, mais les adultes, c'est pris large, hein, parce que je vous dirais que ceux qui vont avoir tendance à retourner aux adultes, on va plutôt les voir vers la fin vingtaine, début trentaine, du fait que certains ont fait des études qui leur correspondaient pas, qui ont entrepris un 2 ans, 3 ans d'expérience de travail, puis finalement, ils se rendent compte que leur discipline ne correspond pas tout à fait à leurs idéaux. Mm-hmm. Alors, certains vont retourner pour faire des cours, certains, ce sera des certificats, des DESS, une maîtrise réorientée et non en ligne avec leur formation initiale. Mm-hmm. Et il y en a certains, c'est quand même une minorité qui vont retourner faire un 3 ans complet dans des nouvelles études, que ce soit au niveau universitaire ou au niveau collégial.
Alors, vous dites c'est une minorité parce que il doit y avoir aussi une clientèle de déçus au niveau du travail. Est-ce que ça arrive, par exemple, qu'on décide de s'orienter dans une carrière, de le faire pendant même 20 ans, puis se dire, bon, non, moi, je l'ai fait pendant 20 ans, je suis plus capable, j'ai pensé que j'aimais ça, mais là, je retourne aux études parce que mon plus grand rêve d'enfant, c'était, je sais pas moi, de faire de la radio ou autre chose, ou ingénieur. Est-ce qu'il y a quand même des cas de figure?
Je vous dirais que pour faire un retour aux études 20 ans plus tard et tout ça, c'est vraiment une question presque d'astre, tout bien aligné, parce que lorsqu'on est rendu dans la trentaine avancée, quarantaine, il y a beaucoup d'enjeux au niveau familial, surtout au niveau familial, qui fait que de retourner aux études 3 ans, refaire des études, implique une gestion financière totalement différente, une réadaptation de la vie familiale, le conjoint ou la conjointe qui travaille et l'autre aux études, c'est pas le même rythme de vie. Alors, je vous dirais que on va voir des personnes qui vont aller chercher une formation à temps partiel ou aller chercher un certificat ou une formation d'une année. Mm-hmm. Ça, c'est un petit peu plus courant que dans ma pratique, là, je vous dirais.
Oui, plus que le portrait de je vous traçais, là.
Oui, oui. Il y a certains qui le font, mais je vous dirais que c'est un contexte de vie familial. Il y a plusieurs éléments qui se regroupent dans un même moment qui permet ça parce que c'est pas facile au niveau financier de retourner aux études.
Non, c'est ça. Bon, on pense toujours à la gratuité scolaire, on n'en est pas encore là, malheureusement, je devrais dire, parce que ça aussi, là, je veux dire, l'université, si on parle de gens qui vont à l'université en général, c'est ça, c'est des coûts, ça, qui s'ajoutent, là.
Oui, mais je vous dirais que la plus grande difficulté, c'est peut-être les coûts des études qui soit universitaire ou collégiale, c'est plutôt que durant que on fait des études, c'est plus l'aspect financier de ne pas avoir un travail à temps plein pour couvrir nos besoins courants. C'est ça la problématique parce que les études, pour la plupart des gens, c'est pas tellement les coûts rattachés aux frais scolaires qui est la problématique. C'est plus, je suis habituée de gagner un salaire de tant de milliers d'argent et là, je retourne aux études à temps plein sans aucun salaire et un travail à temps partiel. Souvent, ça amène une diminution là, de revenus à la maison, mais si on prend un temps partiel, alors c'est plus cette question-là de comment je vais faire pour payer mon loyer, mon hypothèque, la voiture et tout ça.
Oui, parce qu'en général, là, on parle d'un certain âge aussi, les gens se sont avancés dans la vie, ont acheté un appartement, un condo, et puis donc ils s'endettent forcément. Oui. Parlez-moi des raccrocheurs adultes. Là, on parlait des gens qui ont envie ou qui changent, qui veulent compléter, mais ceux qui, dans leur vie, pour une raison familiale ou autre, ont décidé de « bon, moi, j'irai pas au cégep, j'irai pas à l'université, ça me tente pas », et qui décident, soit dans la trentaine ou dans la quarantaine, de raccrocher. Est-ce que ça se fait encore beaucoup? Quels sont les obstacles? Est-ce qu'ils finissent par raccrocher vraiment ou une fois qu'ils retournent sur les bancs d'école et qu'ils voient qu'ils sont avec des gens d'une vingtaine d'années et ils ont perdu le rythme, perdu les habitudes et se découragent? Comment ça se passe en 2014 pour ces gens-là?
Je vous dirais que les raccrocheurs, lorsqu'ils décident de retourner aux études, c'est vraiment une motivation qui est intrinsèque. C'est une motivation qui, pour laquelle ils sont tellement tannés d'être dans un travail, dans des conditions aussi de travail, un salaire qui répond plus à qu'est-ce qu'ils veulent, que lorsqu'ils décident de retourner aux études, ils ont fait leur devoir en ce qui a trait la formation, les études, qu'est-ce que ça comprend et le type de travail qu'ils vont faire. Alors, je vous dirais que cet élément-là est certes un élément qui leur permet de... ils savent qu'ils retournent dans un contexte qui est très différent et le fait qu'ils sont motivés, c'est beaucoup plus facile de passer, de faire nonobstant peut-être des plus jeunes et tout ça et de rester focusé sur leur objectif de réussir pour pouvoir finalement faire qu'est-ce qu'ils veulent vraiment.
Mais c'est possible.
Oui.
En ce moment, le taux de réussite est élevé?
Excellente question. J'ai pas les statistiques devant moi par rapport à ça. Je pourrais pas vous répondre, désolée.
OK, mais les gens y vont tout de même.
Oui, je voudrais que lorsque les gens entreprennent un programme et tout ça, je vous dirais que moi, dans ma clientèle, les gens vont jusqu'à la fin, le terminent pour la majorité du temps, oui.
C'est quoi les principaux obstacles? À part l'argent et l'économie, des adultes qui décident de retourner aux études?
C'est beaucoup moi, dans ma clientèle, c'est beaucoup l'aspect du revenu, la perte du revenu qu'ils ont actuellement. Le sentiment aussi de retourner aux études et le sentiment de, lorsqu'ils auront terminé, ils vont être considérés comme des juniors, comme des débutants. Alors, cette perception, cette croyance-là, c'est sûr, c'est des éléments qu'on doit travailler avec eux parce que c'est seulement une perception. Ils ont tout un bagage qui est additionnel avec l'étude qu'ils sont en train de faire. Vraiment, l'obstacle majeur est l'aspect comment je vais faire pour m'arranger pour être en moyen de payer mon hypothèque, l'épicerie, etc., tout en faisant mon étude. Et pour certaines, c'est aussi comment on va faire en sorte avec la famille. Lorsqu'on est aux études, moi, je dis toujours qu'être aux études, c'est du temps plein. Le jour, on est à l'école. Le soir, on a les travaux. Les week-ends, c'est encore les travaux, les études. Alors, on est absorbé, on est imbibé pendant minimum. Si la formation est un an, si elle est trois ans, c'est trois ans de temps de cette recette-là. Alors, je vous dirais que ça a un impact direct sur la famille, sur le conjoint, sur les enfants. Alors, ça demande une réorganisation. Ça demande des discussions familiales pour voir de quelle manière la famille va composer avec le membre, que ce soit l'homme ou la femme, là, qui décide de retourner aux études.
Mais en même temps, il y a un grand bonheur de retourner. Vous avez une animatrice qui est pour les études. Moi, je suis jeune. J'ai toujours... Non, il y a un grand bonheur, une satisfaction, mais un bonheur d'apprendre et de retourner puis se dire, ben, je vais faire ce que j'aime et j'aurai le diplôme qui va être au bout. Ça, c'est extraordinaire. Pour ceux, surtout, qui n'ont pas eu la chance de terminer, de se dire, bon, ben, ça y est, je vais pouvoir terminer. Dites-moi.
Je voudrais aussi que souvent, quand ça pèse dans la famille, dans le couple depuis quelques années, je vous dirais que souvent, le conjoint et la conjointe sont très supportantes dans la décision. Mmh. Et ça, c'est quelque chose là, qui est porteur là, pour la réussite et tout ça. Mais ça c'est un constat là, de voir sa demi à côté qui n'est pas heureuse, qui développe plein de problèmes personnels, des maladies, etc. C'est le conjoint et la conjointe ont tendance à encourager et revoir les finances. Pour,
alors, ça, c'est une bonne idée. En terminant, les employeurs, leur réaction, quand les gens qui travaillent, parce que ces gens-là continuent, on parle des raccrocheurs qui ont forcément un travail, mais quand ils doivent diminuer les heures pour aller sur les bancs d'école, est-ce que ça se passe bien, ça, ou en général?
Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des secteurs d'activité pour lesquels c'est très difficile de pouvoir changer son horaire. Mmh. Alors, je vous dirais qu'il y en a qui sont confrontés au fait qu'ils doivent demander un temps partiel. Il y en a d'autres qui doivent quitter carrément leur travail parce que c'est difficile de composer.
Malheureusement.
Oui, absolument. Mmh.
Merci beaucoup, Madame Martin.
Ça fait plaisir.
Merci.
Bonne journée.
Vous aussi. Alors, vous avez été nombreux à nous écrire. Puis, en studio, on a Claudia Benoît qui s'occupe vraiment de vous lire. Elle est là, elle attend pendant l'heure. Canal M, vous avez des commentaires. Alors, je vais essayer de tous les dire. Ça sera peut-être pas facile aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup. Mais je tiens à vous lire absolument. Pierre Lavoie dit avoir un objectif précis à coupler de détermination. Bon lundi. Anne-Marie Toin, j'attends la gratuité scolaire pour y retourner, vous voyez. Ensuite, difficile, Martin Papineau qui dit « Difficile d'Emploi Québec n'aide pas un travailleur au salaire minimum à s'instruire et le temps partiel, on en parlait justement, est rarement possible au travail. » Vous voyez comme agent d'aide à l'emploi Québec, j'ai autorisé maintes travailleurs à cesser le travail pour l'école. Ça, c'est S. Wallet. Martin Papineau poursuit. Vous n'êtes pas de Rosemont. Il y a des quotas dans ce quartier. Plusieurs se font refuser une technique plus lucrative. Bertrand Dugré dit « L'éducation devrait être un processus continu. Tout évolue tellement vite qu'on ne peut rester à niveau. » Toute une vie et à repenser. Et puis PM Savard dit idem en parlant de la gratuité. Dans mon cas, je n'ai pas les moyens car je n'ai pas fini de payer ma dette et de mon ancienne école de 3D. Ah oui, ça, les dettes, les études, ça va ensemble. Faut aussi dire que, ça c'est mon commentaire, c'est pas monsieur Savard. Faut aussi dire que j'ai mes erreurs de jeunesse émotive. Alors c'est pour ça, c'est pas uniquement la faute au système. Ça, c'est PM Savard qui poursuit. Et puis, Anne-Marie Toin dit « Ça m'a pris une éternité à consolider et si c'était à refaire, je ne le referais pas, je ferais une technique. » Oui, c'est intéressant, là-dessus, on va y aller, on va parler. Alors, je vous en laisse pour un petit peu plus tard parce qu'on a notre prochaine invitée.
Si j'ai appris à écrire, c'est que j'ai souvent lu dans les feuilles de chêne et les plumes de pin. Si je sais parler aux belles, c'est que je sais bien comment font les tourterelles et les chauds lapins. Dans le trou de ma guitare, y a comme un roseau Dans le fond de mes sabots, il y a comme un renard. Mais de mes années d'école, je n'ai rien gardé. Ce n'était que des paroles pour gâcher l'été. J'ai appris à ma manière que la liberté, c'est de cracher dans la rivière ou dans le sentier. Se peut que j'ai fait mes classes sur un églantier, que j'oublie ou que je ne sache pas très bien compter. Mais je sais tendre d'oreilles et je sais rêver, comme rêvent les corneilles et les peupliers. Si je sais plier bagage quand il en est un, c'est qu'avec les oies sauvages j'ai frayé longtemps. Mais de mes années d'école, je n'ai rien gardé. Ce n'était que des paroles pour gâcher l'été. J'ai appris à ma manière que la liberté, c'est de cracher dans la rivière ou dans le sentier. Si je chante bleu et rose, c'est que j'ai appris d'un rossignol pas morose qui était mon ami. Si je sais lécher en outre, je sais mordre aussi. Je l'ai appris d'une loutre et d'un saumon gris. Dans le trou de ma guitare, il y a comme un agneau. Dans le fond de mes sabots, il y a comme un renard. Mais de mes années d'école, je n'ai rien gardé. Ce n'était que des paroles pour gâcher l'été. J'ai appris à ma manière que la liberté, c'est de cracher dans la rivière ou dans le sentier. Quand j'aurai tenu parole et bien gagné ma vie, quand j'aurai mis pauvre école à pauvre profit, j'apprendrai d'un solitaire à vivre caché et d'un loup quinquagénaire à me taire.
Jean-Pierre Ferland, mes années d'école, on poursuit l'émission et toujours pourquoi et comment retourner aux études à l'âge adulte, important volet, puisque ce sera l'immigration et le retour aux études. J'en parlais en début d'émission parce qu'à chaque fois, on est complètement estomaqué de voir combien d'immigrants sont, je ne veux pas dénigrer la profession, mesdames, messieurs, mais qui sont chauffeurs de taxi, sont ingénieurs dans leur pays, et puis médecins, à chaque fois, c'est des conversations longues que j'ai avec ces gens-là, puis je leur dis, mais vous voudriez pas soigner des gens? Il dit, oui, moi, je veux bien, Madame Stanquet, mais je n'y arrive pas. Et c'est le lot, malheureusement, de plusieurs personnes. Il faudrait voir le politique là-dessus, hein, la reconnaissance des diplômes. On en parle tout de suite avec Annick Lenoir, professeur adjoint au département de services sociaux de l'Université de Sherbrooke et membre du Centre d'études d'éthique des universités montréalaises. Bonjour, Madame Lenoir.
Bonjour.
Alors, quand je vous dis que je suis, comme plusieurs, estomaquée de voir il y a tant d'immigrants qui n'ont pas, qui ne pratiquent pas leur métier une fois qu'ils ont fait les premiers pas dans leur terre d'adoption, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que au moment de la sélection même de l'immigration, il y a un problème. C'est qu'on fait venir des gens de l'étranger sur la base d'une grille de sélection qui, notamment, donne des points pour les études réalisées. Donc, plus on a des études, plus, évidemment, on a de points, plus on a de chances de venir au Québec. Et le problème, c'est qu'ici, généralement, le diplôme n'est pas reconnu, ou en tout cas, il l'est reconnu à la baisse par le ministère de l'Éducation lorsque l'on fait les équivalences. Par exemple, un ingénieur qui a fait 4 ans dans son pays ne pourrait se voir reconnaître qu'une année d'études universitaires. Il y a le problème des ordres professionnels qui ne reconnaissent pas les diplômes obtenus à l'étranger. Il faut repasser un examen ici pour pouvoir être admis dans l'ordre. Évidemment, c'est un examen qui est conçu pour des Québécois, donc avec des questions qui sont parfois orientées culturellement.
Oui, c'est ça, qui peut être parfois difficile là, au niveau de la culture.
Effectivement.
Oui, oui.
Et il y a aussi le problème des employeurs qui exigent l'expérience québécoise pour embaucher justement ces immigrants.
Donc, ça fait beaucoup, hein?
Ça fait beaucoup. Et évidemment, ces derniers se retrouvent avec différentes options qui sont soit, évidemment, rester sur le bien-être social, soit accepter un emploi déqualifiant, donc qui n'est absolument pas dans leur champ de compétences, ou alors accepter un emploi qui est déqualifiant, mais dans leur champ de compétences.
Bon. Je pense aussi à certains médecins français qui arrivent ici, qui sont médecins, et Dieu sait qu'on a besoin de médecins au Québec, hein, on nous le dit chaque jour, les listes d'attente sont là pour le prouver, arrivent et on leur dit, ben voilà, vous, vous ne pouvez pas exercer à Montréal parce qu'on ne reconnaît pas votre diplôme, alors ils passent un examen, ça ne fonctionne pas, donc ces gens-là aussi sont obligés de retourner aux études, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le problème des médecins, c'est un problème particulier parce que, à ma connaissance, c'est pratiquement impossible de recommencer ses études de médecine.
Ah.
Parce que les programmes sont vraiment contingentés. Donc, il y a des métiers comme ça ou des professions où on ne peut pas retourner aux études dans son métier. Donc, ce que ça fait, c'est que les immigrants, et il faut aussi savoir que ces immigrants qui sont extrêmement bien formés, évidemment, valorisent beaucoup les études. Donc, lorsqu'ils se retrouvent devant ces portes fermées, si on veut, vont retourner aux études, mais c'est un choix qui leur apparaît logique, parce que le retour aux études va servir soit, quand c'est possible, à obtenir les cours qui manquent pour se voir reconnaître le diplôme obtenu à l'étranger, soit, dans le cas, par exemple, d'un médecin, de se réorienter en carrière, par exemple, faire des études d'infirmier pour pouvoir exercer dans une profession similaire, ou encore pour tout simplement poursuivre des études. Par exemple, quelqu'un qui avait un baccalauréat dans son pays voit son baccalauréat reconnu par les universités québécoises à la condition qu'ils s'inscrivent au programme de maîtrise.
OK. Alors, donc, on les renvoie finalement aux études, mais c'est un petit peu moins pire que le cas du médecin où là, elle devrait faire encore 7 ans d'études. C'est-à-dire que quand même, quand t'arrives à la maîtrise, c'est plus rapide et là, il y a plus de possibilités.
Mais c'est qu'en fait, il y a plus de possibilités. C'est qu'il y a la possibilité, effectivement, de continuer ses études, mais il faut savoir que plus on étudie, plus corollairement, on se ferme des portes en emploi.
C'est fou,
parce que, s'ouvre des portes sur des emplois très qualifiés, mais on s'enferme sur d'autres, évidemment, qui sont moins qualifiés.
Alors, d'où la déception et d'où l'incompréhension de voir ces gens-là hyper diplômés où ils font leur métier dans leur pays, ils arrivent ici, il y a quand même des choix assez difficiles. C'est 7 ans pour les médecins, pour d'autres professions, c'est moins long, mais quand même, il faut qu'ils pensaient pas à ça quand ils ont traversé, comme on dit.
Non, effectivement, parce que c'est pas ce qu'on leur vend à l'étranger. À l'étranger, ce qu'on leur dit ou la manière dont on leur dit, c'est que ça porte à croire qu'une fois arrivés ici, ils auront de la facilité à se trouver un emploi en lien avec leur profession ou leur métier. Parce qu'effectivement, comme je vous dis, on les sélectionne aussi pour leur diplôme, mais aussi pour le champ d'études dans lequel ils ont fait effectivement leurs études. Donc, si par exemple, ici, on manque d'électriciens et qu'on est un électricien à l'étranger, ça nous donne des points. Mais évidemment, le système électrique n'est pas le même, donc on n'est pas reconnu ici par les ordres professionnels. Il faut recommencer ses études. Et effectivement, ce n'est pas quelque chose qui était envisagé lorsqu'on a pris la décision de migrer.
Alors, combien, je peux vous demander, aller dans les statistiques, mais combien réalisent leur rêve réel de venir à l'étranger, de faire leur profession? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui finalement ils sont déçus, c'est des rêves brisés?
Généralement, ce sont des rêves brisés. La plupart du temps, ce sont des rêves brisés. Ceci dit, il y a quand même un certain nombre de personnes qui profitent de l'immigration, comme je disais tout à l'heure, pour se réorienter et qui, du coup, avec le recul, disent « mais finalement, j'aurais jamais pu faire ça dans mon pays » et sont tout à fait heureux du métier qu'ils exercent aujourd'hui.
Bon.
Donc, tout n'est pas complètement noir.
Alors, une fois que ceux qui sont restés sont téméraires, ils se sont réorientés, ont une autre formation, est-ce qu'ils ont quand même toutefois des chances de travailler? Est-ce qu'il y a des belles réussites à ce niveau-là?
Oui, il y en a. Il y en a parce que, en fait, les programmes d'études ici, comment je pourrais dire, le fait d'avoir un diplôme québécois incite les employeurs à avoir plus confiance dans le futur employé parce qu'il se dit, voilà, il a étudié ici, il connaît déjà la culture de l'entreprise québécoise, il sait déjà comment fonctionner. Donc, c'est quand même un peu plus facile de se trouver un emploi. Par contre, là où il peut y avoir des obstacles, c'est que qui dit retour aux études dit temps qui passe. Mmh. Et ça veut dire aussi, évidemment, des personnes qui avancent en âge. Et plus on avance en âge, plus ça devient compliqué de se trouver un emploi. Je pense aux gens de 40-44 ans, par exemple. Pour eux, ça devient un double handicap.
Mmh. C'est-à-dire, il y a l'âge, il y a le temps qui passe, malheureusement. Et puis, c'est pas évident non plus à ces âges-là de retourner aux études.
Non, effectivement. Surtout qu'on est aux études avec des jeunes de 20 ans, de 21 ans.
Mm-hmm.
Il y a le fait que souvent, les immigrants qui viennent ici sont souvent des parents de jeunes enfants. Donc, il faut qu'un des conjoints décide, entre guillemets, de se sacrifier et d'accepter des petits boulots pendant que l'autre, effectivement, est aux études. Donc, ça veut dire une vie de pauvreté, de précarité pendant quand même plusieurs années.
Oui, oui, oui. Et tout ça n'aurait pas pu se dire avant à l'immigration, dire voilà, si par exemple vous venez au Québec et que vous êtes ingénieur, il n'y aura pas de reconnaissance de diplôme. Ça ne se dit pas avant d'embarquer dans l'avion. Il n'y a pas à ce niveau-là aucune information?
Ben, en fait, ça dépend des personnes à qui on s'adresse.
Mm-hmm.
Le ministère de l'Immigration vous dirait que oui, on le dit.
Bon.
Ceci dit, c'est à la discrétion de l'agent à l'étranger.
OK.
Donc, selon les immigrants que moi j'ai rencontrés, eux me disent non, on ne nous l'a pas dit. Donc, peut-être que, effectivement, peut-être qu'on l'a dit et qu'ils n'ont pas voulu l'entendre, c'est mm-hmm. possible. Peut-être que ça n'a pas été dit. Peut-être que ça a été dit, mais pas de manière aussi claire.
Oui.
Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faudrait aller vérifier sur le terrain pour être certaine de bien comprendre ce qui se passe avant même l'immigration.
Et dernière question, non la moindre, est-ce qu'on n'est pas un peu sévère dans notre connaissance de diplôme? Est-ce qu'on n'écarte pas tout les gens qui auraient beaucoup de potentiel en disant, ben voilà, c'est pas la même chose dans son pays que le mien?
En fait, là, je vais vous parler sur un plan tout à fait personnel. Il me semble que oui, peut-être qu'effectivement qu'on fait les équivalences, qu'on est un peu dur envers ce qui se passe à l'étranger, mm-hmm. les diplômes acquis à l'étranger. Ceci dit, je ne suis pas du tout une spécialiste des questions d'équivalence, donc c'est difficile pour moi de m'avancer davantage.
Merci, Madame Lenoir. Merci
de
beaucoup.
Rien, ça fait plaisir. Au revoir.
Au revoir.